Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 295e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir à nouveau une autrice des Forges, les auteurs et les autrices des Forges qu'on connaît particulièrement bien dans cette émission. Et ce soir, c'est donc Michel Astrut pour son dernier roman, simplement Immortel, et non pas Mortel comme l'expression le veut. L'ouvrage est sorti il y a déjà un petit mois et évidemment David Melman sera là tout à l'heure pour nous parler aussi de sa relation avec Michel. Alors Michel, on ne vous connaît pas encore, en tout cas je vous ai découvert il y a déjà quelques années, mais je ne vous avais pas encore lu et je suis ravi de vous avoir enfin lu, d'avoir enfin eu cette chance de vous lire. Vous avez enseigné le génie civil à Rennes. Alors ça va être intéressant aussi d'en parler par rapport à votre parcours et à votre parcours aussi littéraire. Et c'est votre cinquième roman aux Forges de Vulcain, puisque vous avez écrit aussi bien avant, après Le jour de l'effondrement en 2014, Nous entrerons tous dans la lumière en 2016, La nuit je vole en 2018 et Chevrolet Impala en 2019. Ma première question étant la suivante, que s'est-il passé depuis 5 ans?
Bonjour à tous. Le Covid, il était prêt depuis longtemps, mais c'était compliqué au niveau des maisons d'édition. Je pense que David en parlera lui-même. Et il a été beaucoup décalé. C'est juste pour ça. Mais j'ai écrit entre-temps, hein, et j'ai préparé la suite. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, quoi.
Alors justement, alors c'est vrai que le Covid est passé par là et on en est bien la preuve que parfois ça a du bon, parfois pas. Vous écrivez sous pseudonyme, vous m'avez confié ça tout à l'heure, on aurait pu le penser peut-être au nom, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela alors que vous ne vous mettez entre guillemets pas en avant, il n'y a pas, ce n'est pas de l'autofiction, ce ne sont que logiquement des romans fictifs et de la science-fiction, si on peut parler grossièrement. Pourquoi avoir écrit sous pseudonyme?
Alors, en fait, j'avais regardé la rencontre avec Jean-Luc et je savais que vous alliez me poser cette question. Et donc, j'y ai réfléchi aujourd'hui parce que j'avais fait ça instinctivement il y a des années. Et en fait, c'est très simple. Je voulais pas prendre mon nom d'épouse parce que c'est le nom de la famille de mon mari et en particulier de son père. Alors, c'est pas que je m'entends très bien avec tout le monde, mais c'est pour dire en fait l'origine. Donc, c'est plutôt le nom de son père. Si j'avais pris mon nom de jeune fille, c'était aussi le nom de mon père. Et si j'avais pris le nom de jeune fille de ma mère, qui s'appelle Antonini parce qu'elle est d'origine corse, ben c'était le nom de mes oncles ou de mon grand-père. Donc en fait, à chaque fois, c'était des noms d'hommes. Et je pense que je n'avais pas envie de ça, je refusais ça. Donc j'ai voulu faire ma petite identité à moi, la mienne, voilà, qui sortait de nulle part. Et Astrud, en fait, c'est par rapport à Astrud Gilberto, une chanteuse d'origine brésilienne. Voilà, donc c'est tout. Mais et puis en fait, dans mon nom de jeune fille, il y a un A et un U. Donc ça reprenait le A et le U. Donc j'y réfléchis longtemps. Mais voilà, je voulais pas avoir le nom de toutes ces personnes qui étaient étrangères à mon petit univers littéraire, quoi. C'est tout.
Ah bien, très bien. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que vous enseignez le génie civil à Rennes et l'enseignement, il en est aussi question dans ce livre-là. Dans ce livre-là, on y reviendra parce que j'ai l'impression aussi que vous côtoyez peut-être des étudiants ou des élèves et que votre acuité sur le système universitaire ou le système tout simplement d'enseignement est plutôt très bonne. Mais justement, comment on passe? Comment d'enseigner le génie civil et de l'étudier, comment on passe ensuite à la littérature? Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que vous commenciez à écrire?
Ah, c'est une très très longue histoire. Donc là, il faut revenir très très loin en arrière. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être écrivain. J'ai eu cette idée-là à l'âge de 12 ans. Alors, je reviens là encore à la rencontre avec Jean-Luc de dimanche. Quand il a dit, ça m'a vraiment interpellée, quand il a dit qu'à 12 ou 13 ans, on est déjà la personne qu'on sera plus tard. En fait, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais quand on le dit à d'autres personnes, des fois les gens sont étonnés quand ils disent non, à 12 ou 13 ans, on est encore un enfant. Non, à 12 ans, je me suis fait cette promesse en fait que je serais écrivain. avant toute chose, avant de faire d'autres études. Et j'ai commencé à écrire à l'âge de 20 ans, ça fait 40 ans que j'écris, et je suis toujours fidèle à cette promesse-là. Et alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais j'ai choisi des métiers qui seraient quand même valorisants, qui seraient quand même intéressants, mais je ne voulais pas faire un métier passion, parce qu'il y aurait plein d'autres choses qui m'auraient intéressée. Mais je savais qu'il fallait que je garde ma passion pour l'écriture et pour la littérature. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à la question. Donc j'aimais beaucoup la physique, les maths à l'école. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des sociétés privées où je n'avais pas beaucoup de temps. Et puis après, j'ai passé le concours pour être ingénieur. Et j'ai fait mon école pour être professeur, pardon. Et j'étais ingénieur dans le domaine du génie civil, dans le domaine du bâtiment. Tout ça, c'est un peu des hasards. Voilà, donc la réponse est un petit peu bizarre, mais j'arrive très bien à lier les deux, en fait. J'ai un peu de temps pour écrire. Maintenant, il suffit que j'ai une heure par-ci, par-là pour arriver à me mettre dedans. Et puis, voilà. Voilà. C'est un petit peu paradoxal, mais voilà, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça.
J'aimerais qu'on revienne aussi à votre parcours au sein de Forges de Vulcain, puisque dans La Nuit Je Vole, on retrouve certains points communs avec la Laura de Simplement Immortel quand même. Il y a quand même cette manière peut-être onirique de différentes thématiques, que ce soit de tout simplement voler, mais aussi d'avoir des caractéristiques et des super pouvoirs. Comment vous construisez votre œuvre? On a l'impression que il y a véritablement une œuvre qui est en train de se créer autour de ces thématiques-là. Finalement, comment vous avez évolué en tant qu'autrice à travers ces cinq romans aux Forges de Vulcain?
Alors, quand je suis arrivée aux Forges de Vulcain, donc c'était avec Le jour de l'effondrement, qui est un roman un petit peu particulier. C'était la fin d'un cycle précédent, en quelque sorte. J'avais parlé de l'enfance, donc dans des romans qui sont plus anciens, qui étaient dans d'autres maisons d'édition. Et Le jour de l'effondrement, c'était un petit peu l'adieu à l'enfance, à l'adolescence. Et en fait, je suis repartie sur un autre cycle, beaucoup plus imaginaire. Je pense que on a une vraie liberté aux Forges de Vulcain. Ça, c'est vraiment super. J'ai évolué en fait, en même temps que la maison d'édition. Et c'est plus, nous entrerons dans la lumière, en fait, qui a été. Je me suis libérée, je me suis sentie beaucoup plus libre. J'ai eu envie de parler du réchauffement climatique, d'être un petit peu, alors pas forcément dans la magie comme dans La Nuit Je Vole, mais dans une espèce de basculement, dans un décalage, donc dans le futur. En fait, je prends des personnages qui sont très terre à terre. Dans La Nuit Je Vole, mon héroïne, c'est quelqu'un qui est pas très intéressant, enfin qui semblerait pas très intéressant dans la vie quotidienne, puisque elle passe son temps à investir dans des appartements, à les rénover pour pouvoir les revendre ou les louer. Et il y a ce don qui lui tombe dessus. Alors, vous posez la question, d'où viennent les idées? En fait, chaque livre, ça sera différent. La nuit je vole, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps, pendant une randonnée dans le Vercors. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Vercors ici. Il y a un mont qui s'appelle le mont Aiguille. Et donc, c'est une montagne très pointue, mais qui est allongée, comme le chat d'une aiguille. J'aimais beaucoup ce coin-là. On y allait souvent avec mes parents. Et on était à l'hôtel et en faisant la randonnée, donc en montant sur les hauteurs, j'ai eu cette idée-là. Mais tiens, qu'est-ce qui se passerait si une femme se réveillait le matin et puis qu'elle ne soit plus dans son lit aux côtés de son mari dans cet hôtel, mais sur le sommet de cette montagne. Et c'est une histoire que j'ai gardée très, très longtemps en mémoire. Je ne me sentais pas capable de l'écrire. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de l'écrire. Et pour La Nuit Je Vole, en fait, moi, quand je commence à écrire, je connais pas du tout la suite de l'histoire. Je connais. Là, j'avais vraiment juste cette vision de début. Je n'avais évidemment ni la suite ni la fin. Et voilà, les choses se sont enchaînées. Je me mets dans mon personnage et j'essaye de décrire ce qu'il vit, de décrire sa vie. Donc, je me suis un petit peu perdue par rapport à votre question. Oui, l'idée des dons. J'avais traité d'un seul don dans La Nuit Je Vole, donc le don de pouvoir voler, et c'était une idée, oui, que j'avais envie de traiter les autres dons. Donc c'est pour ça que dans Simplement Immortel, tous les autres dons apparaissent, mais il n'y a pas l'aspect magique de La Nuit Je Vole, mais c'est la technique qui va les permettre de les acquérir. C'est un peu différent.
Je m'interroge toujours sur le pourquoi de l'imaginaire. Pourquoi un auteur décide d'inventer véritablement. Alors, ce n'est pas d'inventer véritablement, puisque là, il y a quand même un fond qui est clair, une société existante, qui est une société qui est déjà. Qui est dans notre, qui est notre quotidien aujourd'hui, mais on verra aussi que la temporalité est peut-être plus subtile que ça dans votre roman. Mais comment on décide de créer véritablement un monde, de créer un univers, d'envisager le futur? Est-ce que c'est par gourmandise? Est-ce que c'est au contraire une défection de notre société actuelle? Qu'est-ce qui entraîne finalement le fait de rentrer dans un cercle imaginaire?
Bah, en fait, j'ai donc comme je le disais, j'ai des personnages qui sont assez banals. Moi, j'ai toujours voulu parler de personnages qui sont pas des héros ni des anti-héros, qui sont entre les deux, qui sont pas aimables non plus. Alors, dans Le jour de l'effondrement, le premier roman qui était paru aux Forges, c'était un jeune homme qui revient donc dans la petite ville où il a passé son enfance et il a tué volontairement son meilleur ami. Donc en fait, moi j'aime bien ces personnages assez banals, assez quotidiens, leur infliger quelque chose. Donc là, c'était quelque chose de difficile. Dans La nuit de je vole, ben, je lui inflige ce don de voler, elle n'en veut pas du tout. Au début, ça va la déranger plus qu'autre chose. Donc il faut qu'il y ait une espèce de petite explosion, quelque chose dans le quotidien, dans le banal. Et ben, dans Simplement Immortel, c'est cette vision du futur. Ça aurait très bien pu se passer dans le présent, hein. Finalement, on peut faire plein de parallélismes avec des choses dans le présent. Mais le futur, c'est un décalage qui permet de mettre certaines choses en évidence ou qui peut permettre de plus s'interroger, qui donne une couleur aussi plus étonnante. C'est pas plus facile, mais c'est plus coloré, c'est plus vif, quoi.
Comme la couverture.
Oui.
Alors justement, la temporalité, j'aimerais qu'on en parle, puisque en effet, le roman est dans une strate totalement indéterminée, sauf que vous y mettez quand même quelques indices, puisque le père, par exemple, d'Anthony, avait encore les pochettes des Jackson 5. Ça veut dire qu'on est quand même dans une période qui est peut-être 50, 100 ans, approximativement. Volontairement, j'imagine que vous ne vouliez pas donner de vision sur l'avenir pour éviter d'être comparé à Nostradamus, je l'entends. Mais
Non.
cette période-là, en quoi elle vous inspire?
Laquelle période? Le futur? Non,
Oui.
le
Là.
futur. Bah, j'ai du mal à écrire sur le présent, en fait. On est dans un basculement et oui, je sais pas. Quand j'imagine des choses maintenant, ça va être systématiquement dans le futur ou peut-être dans le passé. Mais le présent ne m'inspire pas. Donc, je réponds un petit peu. Voilà, je monte un petit peu en touche, mais oui, j'ai plus envie d'écrire sur le présent. Je l'ai beaucoup fait. Bon, bah, la nuit, je vole, il y avait cet aspect onirique. Bon, il y avait mettre les personnages dans des situations difficiles. Voilà, mais maintenant, je me vois vraiment travailler enfin, sur le futur, travailler dans le futur.
Très bien, alors une question déjà de Sandra,
Ouais.
puisque ça doit rebondir sur le sujet, j'imagine.
Exactement. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel. Je me demandais, oui, en vous écoutant là depuis le début, vous faites quand même appel beaucoup à votre imaginaire. Anthony a parlé aussi de l'onirisme tout à l'heure, mais est-ce que ça veut dire que vous nourrissez de lectures aussi qui font appel à l'imaginaire, uniquement à des lectures futuristes, ou est-ce que au contraire, vos lectures sont nourries du présent, je ne sais pas, voilà, à l'inverse. Voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui nourrit vos lectures et éventuellement votre imaginaire. Enfin, vous avez expliqué tout à l'heure le Vercors, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la littérature, voilà, qui vous inspirent aussi?
Alors, oui, alors chaque livre est inspiré par quelque chose, alors que ce soit de la littérature ou des films. Alors, je lis pas tellement de littérature de science-fiction, en fait. C'est pas, voilà, j'en lis très peu. Ce qui a inspiré, donc il y a toujours quelque chose au départ d'un livre, puis après c'est comme une petite pierre, et puis après là, il y a une boule de neige qui se fait autour. Je vais faire intervenir autre chose. Donc dans Simplement Immortel, c'est Interstellar en fait. comme livre, comme film qui m'avait vraiment plu. Et j'ai vraiment commencé à réfléchir sur le livre à partir de ce retour dans le passé où il vient pour sauver sa fille. Et donc c'était cette histoire en fait de couple. L'homme, il a tellement d'amour, il a tellement envie de préserver sa famille, bah, qu'il arrive à acquérir ce don. Voilà, de pouvoir revenir dans le passé. Et donc, c'était ça, le départ de Simplement Immortel. Donc, on était dans le futur, et obligatoirement, puisqu'il fallait pouvoir acquérir ses dons, et puis Interstellar était dans le futur. Donc, c'était ça l'idée. J'avais déjà traité de la relation entre un père et sa fille, dont nous entrerons dans la lumière. Et donc, ici, j'ai voulu mettre cette histoire d'amour, parce que j'ai jamais écrit d'histoire d'amour, parce que c'est compliqué, je trouve, d'écrire une belle histoire d'amour, ça demande. Enfin bon, j'avais pas envie de m'attaquer à ça tout de suite. Et voilà, donc Interstellar, une histoire d'amour, avoir des dons, les autres dons que j'ai pas pu développer dans La Nuit Je Vole, eh ben, c'était le début de ma boule de neige.
Alors j'aimerais que vous nous parliez de cette société que vous avez imaginée, qui finalement, on l'imagine très bien, pourrait se réaliser. Tout est envisageable. Personne n'aurait cru il y a peut-être 50 ans que nos vies seraient celles actuellement, gouvernées par une intelligence artificielle potentiellement, par nos téléphones, gangrénées par nos téléphones. Comment vous la voyez, cette société que vous avez décrite dans Simplement Immortel, cette société militarisée, cette société où la liberté n'est plus?
Alors en fait, je vois une société avec vraiment des classes sociales très, très séparées. Alors, c'est une vision qui est sombre, hein. J'espère que je me trompe. Donc, on voit qu'il y a une petite caste de privilégiés qui vivent vraiment très confortablement, un peu comme on pourrait l'être maintenant. Et donc, pour sauvegarder la tranquillité et bah, le luxe, la prospérité de cette classe privilégiée, bah, on devine que derrière les frontières, il y a des gens, alors on ne sait pas s'ils sont carrément esclaves, mais qui vivent vraiment de façon très précaire, quoi. Donc moi, j'imagine une société vraiment très séparée comme ça.
Je parlais de votre roman, hein, Michel, hein. On est d'accord, hein.
Oui, bien sûr, oui.
Oui. Justement, j'aimerais que vous nous parliez aussi, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous parliez de ces individus qui sont plutôt banals, mais vous parlez aussi, dans ce roman-là, de celles qui sont un petit peu détruites par le système, les laissées pour compte. Et ça, c'est en effet beaucoup plus rare en science-fiction, où en principe, on se concentre davantage sur les héroïnes et sur les héros. Là, vous prenez le contre-pied total, total d'une science-fiction qui est établie depuis déjà de nombreuses années. C'est un choix fort de votre part.
Oui, alors bon, c'était. Bah oui, moi je parle toujours de ces gens-là. En fait, ça ne me serait pas venu à l'idée, oui, de parler de ceux qui réussissent, ça ne m'intéresse pas, ou de parler de ceux qui sont trop en bas non plus. Non, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien bah oui, m'intéresser à ces gens-là qui sont au milieu, qu'on voit jamais. Je vais réhabiliter voilà, cette espèce de classe moyenne. Alors. Ils sont, bah, ce couple, donc, ils sont pris au piège en fait de leur choix. La femme est très ambitieuse, elle a décidé bah, de gravir les échelons, d'entrer dans l'armée. Le mari, lui, est beaucoup plus contemplatif. Il se met en retrait pour la laisser faire. Et bah oui, tous les deux vont se retrouver un petit peu broyés par ce choix. Ce choix, il n'est pas viable en fait à longue échéance.
Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce couple, Anthony et Laura. Alors, c'est plutôt rare d'avoir un Anthony dans un roman et ça me comble véritablement. Ce couple-là, il part déjà d'un postulat. C'est que finalement, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est ce postulat de départ-là. Ils s'engagent tous les deux potentiellement. Finalement, seule Laura réussit, en tout cas, elle réussit en premier et c'est elle qui part finalement. Vous jouez aussi sur cette métaphore peut-être de la réussite professionnelle. Où en effet il y a un déséquilibre dans un couple qui peut aboutir à peut-être différentes conséquences, mais ce choix-là de départ, est-ce qu'il est anodin ou pas?
Alors, au début, le fait que ce soit l'homme qui reste et la femme qui part, c'est ça la
Oui.
question? Ah
Non,
oui, non, c'est pas anodin du tout. Donc, en fait, je fais très attention quand je choisis le sexe de mes héros, ça peut être indifférent. Enfin, je peux écrire avec des personnages masculins ou des personnages féminins. Donc là, j'avais commencé à écrire l'inverse. Donc c'était la femme qui restait et le mari qui partait. Et puis j'ai modifié parce que effectivement, ça ne me paraissait pas du tout bien. Mais en fait, l'homme est très fort lui aussi, hein. C'est pas parce qu'il reste et puis qu'il finalement, c'est pas qu'il se dévoue, mais c'est son caractère. Il est heureux de voir sa femme heureuse et c'est pas du tout un personnage qui est en retrait. Donc ça aurait pu être l'inverse, mais non, dans la société actuelle, enfin on a quand même quelque chose à. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Et oui, c'était très très volontaire que ce soit la femme qui soit la soldate, on va dire. Même si les deux personnages, pour moi, sont aussi sont égaux finalement dans leur bagarre, dans leur bataille, quoi. Ces deux personnages très forts.
Et ils sont d'autant plus égaux que le livre, clairement, fait la part égale entre les deux parties, entre Laura et Anthony, entre plutôt Anthony dans un premier temps et Laura ensuite. Ça aussi, c'est un choix pertinent qui aurait pu peut-être se transformer en chapitre alterné, une voix de l'un, la voix de l'un, la voix de l'autre. Comment vous avez opéré ces choix-là, puisque finalement, au début, c'était peut-être un choix différent, puisque vous venez de dire que c'était plutôt Anthony qui avait ses dons. Est-ce qu'il y a eu aussi des modifications par rapport à la structure narrative du roman?
Non, 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 non. Je tenais vraiment. C'est comme un passage de relais en fait. Hein. À un moment donné, c'est lui qui parle. Donc elle, c'est un fantôme. Ils se rencontrent brièvement et puis c'est lui qui disparaît. Non, non, c'était vraiment volontaire. Bon, après, on reprend un peu les histoires d'amour tragiques hein, où finalement les deux ils sont jamais ensemble. Il y en a un qui passe son temps à chercher l'autre et puis vice versa. Donc, non, non, c'était volontaire qu'il y ait cette séparation, enfin cette rencontre et puis ces séparations des héros.
Très bien. Alors, David est arrivé, logiquement, je crois l'avoir
Ah,
vu. Est-ce que tu es là, David? Est-ce que tu m'entends?
je suis là, est-ce que tu m'entends toi?
Parfait, c'est bon. Bienvenue, David. J'ai l'impression que tu fais partie de ma famille, David. Je te vois davantage que certains membres des miens.
Non, alors je vous présente mes excuses, mais j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec les trains ces jours-ci, et donc je suis en retard et c'est très grossier, et j'en suis désolé.
Mais non, il n'y a aucun problème. Alors, j'aimerais que tu nous parles de Michel. Ça fait déjà le cinquième roman que tu publies d'elle. Alors, à des
Oui.
échéances particulières, c'est ce qu'on disait depuis 2009, le Covid est passé par là et donc le texte était peut-être prêt et ça aurait pu se faire plus tôt. Comment tu la vois en tant qu'autrice au sein des Forges? Elle a une voix particulière qui est peut-être très singulière par rapport aux autres auteurs des Forges. J'aimerais que tu nous en parles.
Oui, alors j'aimerais en profiter pour dire que Michel, c'est une autrice qui est rentrée dans le catalogue par la boîte à manuscrits, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs des Forges. Et pour ceux qui écrivent, sachez que c'est comme ça souvent qu'on rentre dans le catalogue par la boîte à manuscrits. Et je dois aussi dire qu'à l'époque où on a repéré Michel, il y avait une assistante éditoriale aux Forges qui s'appelait Viviane Duguigny, qui est depuis devenue éditrice chez Larousse, qui avait repéré le texte avant moi et qui m'a dit surtout regarde, ça peut te plaire. Et donc merci beaucoup à Viviane d'avoir repéré le texte de Michel. Le Michel, elle a une place à part parce que c'est l'autrice qui. Une des deux autrices qui a le plus publié dans le catalogue. C'est vraiment quelqu'un qui construit une œuvre. Alors, Michel avait déjà commencé la construction d'une œuvre avant de rejoindre le catalogue des Forges. Donc, ses deux premiers titres dans le catalogue étaient déjà extrêmement maîtrisés. Donc, il n'y a pas eu l'effet premier roman parfois où ça part un peu dans tous les sens et voilà. Et puis, ce qui est fascinant, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, alors, la comparaison va vous sembler très étrange, mais d'un point de vue éditorial, ça fait sens. C'est que je rapprocherais presque Michel de Luke Reinhardt. Alors, c'est deux esthétiques très différentes parce que Reinhardt, c'est un auteur américain, c'est de la satire, et voilà. Mais le point commun, qui est un point très important, c'est qu'en fait, ces deux auteurs qui vont explorer des mondes très variés. contrairement à certains auteurs qui vont vraiment creuser un même sillon, c'est-à-dire Michel, elle a déjà écrit un roman d'éducation qui est pas loin du polar, un post-apocalyptique, un roman de réalisme magique pur, un polar psychologique, maintenant un roman de science-fiction. Tout comme Reinhardt a fait du roman contre-culture, du KPDP japonais, du post-apo, voilà. Et en fait, ce qui montre que c'est des grands écrivains, c'est que c'est leur univers esthétique qui fait le lien entre ces univers. C'est-à-dire que je sais que chaque fois que j'arrive dans un roman de Luc Reinhardt ou dans un roman de Michel Astrud, je suis dans un roman, dans un de leurs romans. C'est-à-dire qu'il y a leur manière d'écrire qui est très particulière. Et je suis toujours fasciné par le fait que quand Michel arrive sur un nouvel univers. Parfois, je dis, c'est quand elle fait de la science-fiction, c'est que c'est comme si un auteur de la nouvelle vague faisait de la science-fiction. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose d'à la fois distancié, de très élégant, de très délicat, qui passe avec un petit effet d'irréel, mais un sens du réel aussi. Voilà, donc quelque chose de très particulier que j'adore retrouver. Et voilà, et là, on est un peu pris par la sortie de Simplement Immortel. C'est d'ailleurs assez agréable de travailler. Alors, ça, c'est un peu les coulisses de l'édition, mais en littérature générale, il faut aller très très vite pour la sortie d'un livre, puisqu'il y a le tourniquet de la nouveauté est très très important. Ce qui est intéressant quand on est en littérature de genre, c'est que la rotation est très lente, si on a plus de temps pour installer le titre. Et les lecteurs d'imaginaire sont des lecteurs qui sont, pour une grande partie d'entre eux, assez férus de nouvelles voix, de nouvelles lectures. Et j'ai été très très content pour l'instant de l'accueil que pas mal de lecteurs ont fait à Simplement Immortel, avec un point, et après je me rends compte que je parle trop, donc je vais m'arrêter là, mais un point qui est important, c'est que dans le catalogue des Forges, il y a peu d'histoires d'amour. Parce que je suis généralement assez exigeant sur ce type de sujet. Et en fait, ce qui a été beaucoup relevé par les premiers lecteurs-lectrices, c'est que c'est une très belle histoire d'amour. Et qu'en fait, il y a trois grandes histoires d'amour dans le catalogue des Forges. C'est Le Soldat Désaccordé, À crier dans les ruines et Simplement Immortel maintenant. Et voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, ce n'était pas l'élément qui m'a le plus touché, mais c'est l'élément auquel je repense le plus après coup.
Et un
Donc.
petit peu, et un petit peu de Pierre Rofaste.
Et un petit peu, non, Pierre Fast, c'est super, mais il n'y a pas de, il y a pas une,
Mais il y
c'est
a un
pas,
petit peu, il y en a un petit peu.
c'est pas le,
C'est pas la
je trouve,
thématique principale, bien sûr.
par exemple que dans la trilogie de Pierre Fast, ce que je retiens, c'est plus les relations familiales et amicales, en fait. Voilà. Mais il y a des histoires d'amour, effectivement, dedans aussi. Non, mais en plus, je ne vais pas dire ça parce que chez Marie-Fleur Helbecker aussi, il y a une histoire d'amour qui est un peu particulière. Il y a d'autres récits amoureux, bien sûr. Voilà.
On l'entend. Alors justement, est-ce que tu peux peut-être aussi nous parler de... Et est-ce que vous pouvez tous les deux nous parler de votre travail conjoint? Comment on travaille quand on est Michel Astrud et comment on réceptionne le texte en tant que David Meulemans et vice-versa? Comment vous travaillez tous les deux ensemble? Est-ce que ça diffère de certains autres auteurs ou au contraire, c'est d'une facilité déconcertante?
Pour moi, c'est facile. Enfin, je trouve que les Forges, c'est ce que j'ai dit, c'est une maison qui permet d'avoir une liberté totale. Donc, j'ai évolué avec eux, j'ai grandi avec eux. J'aurais peut-être pas écrit une histoire comme ça si j'avais pas été aux Forges. Bon, après, on peut pas savoir. Donc, moi, je relis énormément, je les retravaille énormément, les textes, surtout celui-ci où j'ai eu beaucoup de temps. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de relectures. Donc, on n'a pas eu énormément de retravail sur celui-ci.
Non,
Il y a eu très peu de choses.
c'est celui sur lequel il y a eu le moins de retravail. Je pense que Michel avait peut-être plus, comment dire, je ne sais pas si c'est parce que tu avais une histoire très précise en tête quand tu t'es lancé, mais c'est vrai que, par exemple, il y a des textes comme La nuit je vole ou Chevrolet Impala. Où on a eu plus de retours que sur Simplement Immortel. Mais Simplement Immortel était déjà très en place en fait quand je l'ai eu. Et puis en fait, comme on a pris beaucoup de temps et que j'ai vu arriver d'autres versions, sans trop de retours de ma part, c'est toi qui l'as fait évoluer et qui l'as affiné, qui l'a amené à son terme en fait.
Oui, moi j'aime bien relire les textes de toute façon, c'est toujours un. Puis j'aime bien les laisser reposer quoi, pendant 6 mois, 8 mois. Après, on a vraiment un œil neuf, hein, c'est comme le texte d'un autre auteur. Et même là, quand j'ai relu les parties, je me dis, ah, là, il y a encore besoin de retravailler. Il faudrait toujours, toujours retravailler un texte. Enfin, bon, à un moment donné, il faut bien s'arrêter, sinon. On n'écrirait pas de nouveaux textes. Oui, il était peut-être. Alors, en fait, je me souviens même plus. Moi, quand je commence, donc j'écris pas du tout de scénario. Je sais même plus si j'avais la fin. Alors, un texte où j'ai le plus de mal, c'était La nuit je vole. C'était ce que je disais. J'étais partie vraiment avec l'image du début et bah voilà, je suis partie. Et c'est vrai que jusqu'à la 100e page, c'était un peu flottant. Je savais que ce que j'écrivais était un peu flottant, mais bon, ben, tant pis, on continue. Puis après, ça veut dire que si c'est flottant, il faut beaucoup, beaucoup reprendre. Il y a des choses à modifier. Ouais, je pense que Simplement Immortel était plus calé dès le début. J'avais plus d'idées dès le début. C'était plus précis, quoi.
J'aimerais qu'on revienne sur Anthony, sur le personnage d'Anthony, puisque lui va devoir vivre seul une certaine vie de privilégié, on pourrait dire, en tout cas par certains endroits, justement après son statut de conjoint de soldat d'élite. C'est aussi un grand roman sur l'isolement et sur la solitude, ce qu'on voit très rarement, voire jamais en science-fiction. Et c'est là aussi où je trouve où vous différez sur tout ce qui se passe autour. Vous traitez ces zones d'ombre, ces zones un petit peu qu'on ne voit pas passer finalement dans ce genre de roman. Là, pour le coup, il y a quelque chose derrière cette solitude, derrière cet isolement. Qu'est-ce qu'il y a derrière en tant qu'autrice?
C'est la première fois qu'on me fait la remarque. Bah, ils sont différents tous les deux. Ils ont chacun une bataille différente à mener, même si le but de cette bataille, ils ont le même but. C'est de se retrouver, d'être ensemble, d'être heureux ensemble, puis si possible, d'être pas être tout seul. Parce que, bon, je veux pas dévoiler la fin, enfin, je sais pas si tout le monde l'a lu, mais
Ne
il y a.
dévoilons pas, ne dévoilons
Voilà,
pas.
voilà, donc ils sont pas tout seuls jusqu'au bout, mais effectivement, comme ils sont inadaptés, ils ont choisi la mauvaise voie, elle et lui. Elle, quand elle a choisi de devenir comme ça un des petits soldats de cette société, je pense qu'elle n'a pas compris à quoi ça l'exposait. Mais moi, je fais le parallèle avec les gens qui travaillent dans des grandes entreprises, dans le domaine privé, c'est un peu ça. Si on n'a pas été élevé là-dedans, si on n'a pas vraiment été dès l'enfance un peu formaté pour ça, c'est compliqué. Et voilà, donc elle se retrouve prise au piège, elle le comprend un peu trop tard. Lui, il la laisse faire parce qu'il est content qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Mais c'est pareil, lui le comprend peut-être un peu plus tôt qu'elle parce qu'il a plus de temps, comme il a que ça à faire, comme il est en pleine observation. Mais tous les deux, ils sont pris au piège. Et ils n'arrivent pas à. Bah, c'est une société où si on n'est pas comme les autres, on n'arrive pas à établir des relations amicales. Lui, on le voit. Il arrive, il est dans ses privilèges, je l'appelle presque prince consort, où c'est une vie d'expatrié, de luxe, mais les relations restent, bah oui, un petit peu froides. On n'arrive pas, tout le monde se méfie un petit peu des autres, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à établir des rapports amicaux, de vrais rapports amicaux. Et elle, comme elle a beaucoup d'ambition et qu'elle devient commandant de ses troupes, c'est pareil. Tous les deux se retrouvent isolés pour des raisons différentes. Mais c'est leur choix hein, qui fait qu'ils n'étaient pas adaptés en fait à la vie qu'ils se sont choisis, qui les amène à cet isolement.
Et c'est quasiment même une perte de sens, une perte de vie finalement. On a l'impression qu'ils sont quasiment déshumanisés, qu'ils ne sont pas. Alors ils ne sont. Bon, on n'a pas l'impression qu'ils vont être remplacés par des robots, mais au contraire qu'ils sont déjà des robots. Et on a aussi l'impression que finalement c'est un peu notre miroir aujourd'hui en 2024. On est quand même. J'ai trouvé en tout cas que ça ressemblait à beaucoup de choses de notre quotidien. Vous n'écrivez pas ça uniquement dans l'imaginaire, il y a quand même des parallèles qui sont faits qui nous frappent cruellement, et notamment cette déshumanisation et notamment cette absence d'émotion, cette absence de comment dire, de conviction même. J'ai l'impression qu'on n'a même plus le droit aujourd'hui d'avoir une certaine conviction et de l'exprimer. Est-ce que c'est aussi là où vous vouliez mener vos personnages sur cette déshumanisation?
Alors donc ce roman, donc comme le disait David, moi j'ai toujours voulu que ce soit une histoire d'amour et c'est un petit peu autobiographique parce que comme je le disais, donc j'ai toujours voulu être écrivain, donc j'étais peut-être un petit peu décalée par rapport à ça et j'ai fait des études parce que j'aimais bien la physique et les maths, donc j'ai fait des études d'ingénieur. Après je suis allée dans des grandes entreprises, mon mari aussi, et en fait. En quelque sorte, on a vécu, enfin, sans aller évidemment, mais c'est, je me suis beaucoup inspirée de ça pour écrire le livre. Et c'était, alors j'ai mis ça dans le futur parce que si je l'avais écrit dans le présent, ça aurait été très plombé, ça aurait pas été intéressant. Il y a toute cette part d'imaginaire qui rend les choses peut-être plus légères d'une certaine façon, qui fait que on se pose des questions. Mais ouais, moi j'ai vécu ça. Mon mari travaillait dans une entreprise, alors je vais pas citer le nom. Mais on n'avait pas le droit d'être ensemble dans la même entreprise. Quand il y avait deux personnes de la même entreprise qui sortaient ensemble et qui se mariaient, fallait qu'il y ait un des deux qui démissionne. Et donc, on rentrait tous les deux. Donc, on était tous les deux ingénieurs à plein temps. Quand on a commencé à avoir un enfant, c'était impossible. On rentrait tous les soirs à 7 heures. Il fallait chercher ma fille à la garderie. Elle était fatiguée. C'était même plus la peine d'écrire. C'était pas une vie. C'était. S'il n'y avait plus rien, quoi. Effectivement, on vient des robots. Donc, j'ai rien inventé. Je me suis vraiment beaucoup inspirée de cette vie-là. C'est peut-être le roman le plus autobiographique que j'ai écrit, bien que ce soit un roman de science-fiction.
Eh bien, en effet, c'est ça qui est très malin, c'est que on sent la métaphore, mais finalement, elle n'est pas forcément totalement visible. Et c'est le pouvoir de suggestion que vous faites dans ce roman-là, il est quand même extrêmement fin et pertinent. Et j'aimerais qu'on parle aussi de cette société qui, finalement, prône le culte du mystère, le culte du confidentiel. Souvent, dans peut-être toutes les 10-15 pages, on sent qu'il y a une information qui va sortir et finalement, on nous répond que c'est confidentiel. Cette part de la confidentialité des données, la confidentialité des faits, elle n'est peut-être pas si évidente aujourd'hui où l'information circule constamment, mais finalement, peut-être que les informations les plus importantes, elles sont véritablement confidentielles. Où vous vouliez en venir par rapport à ce système un petit peu kafkaïen, ce système un petit peu Big Brother qui surveille cette société-là?
Alors, c'est vrai que dans ce roman-là, on voit vraiment les choses à leur vision. Je me suis, enfin, c'est suggéré. J'ai suggéré des choses, mais j'explique pas toute la politique de la société. Bah, de toute façon, c'est une société militaire, donc on va pas donner les informations. C'est une société militaire et qui n'est pas si bien dirigée que ça, parce qu'il y a quand même des erreurs. On le voit bien, il y a des gens qui font pas forcément bien leur travail, puisqu'il y a des gros problèmes qui arrivent. Ce qui existe aussi dans notre société, hein. On a l'impression que tout est bien maîtrisé, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, bah donc du coup, j'ai rien inventé de la même façon, hein. Je me suis inspirée du monde réel. Alors, sans vouloir dire, il y a un grand complot autour de nous, hein. Je sais pas, j'ai pas cette thèse-là. Mais oui, comme on est dans un système de surveillance. Oui, là, les informations ne sont pas diffusées de façon importante, quoi.
Même le silence des gouvernements. Il y a des choses qui sont frappantes aussi sur le silence des gouvernements qui laissent la rumeur se colporter, les on-dit. Clairement, là aussi, à l'ère des fake news et autres informations pour lesquelles beaucoup de citoyens disent amen, sans forcément s'informer réellement, il y a quand même quelque chose de notre société qui est frappant quand on lit attentivement votre roman. Est-ce que c'est finalement un roman qui crie, entre guillemets, qui crie à une certaine révolte, en tout cas à une ouverture d'esprit? Est-ce que vous appelez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je sais que le romancier n'a pas de volonté d'appeler et d'être homme politique, mais quand on écrit aussi, on a des convictions. Est-ce que c'est un retour des convictions dans la science-fiction?
J'aimerais bien, alors oui, bien sûr, j'ai des convictions. Le roman n'est pas là, effectivement, comme vous le dites, pour défendre les convictions, mais bon, ça n'empêche pas si on peut le faire en plus. Alors, moi, je trouvais que c'était un roman très, très négatif, très, très fataliste. Et bah, j'ai fait une table ronde la semaine dernière à Angoulême, et on m'a dit, ah non, non, au contraire, c'est positif, tu ouvres quand même une part d'espoir. Bon, bah, enfin, tant mieux, j'en étais très heureuse, mais ma part d'espoir, elle est quand même dans les failles. En fait, ils arrivent à s'infiltrer dans les failles pour, bon, alors c'est pareil, je ne vais pas déflorer la fin du récit, mais pour avoir cette lueur d'espoir à la fin. C'est un petit peu dans tous mes romans, j'aime bien quand même avoir une petite ouverture, mais c'est une ouverture individuelle, en fait. C'est un petit groupe qui va arriver à survivre. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. J'écoutais une émission sur France, non, c'était sur France Inter, La Terre au carré, où il parlait justement maintenant des néo-paysans qui essayent de faire des petites sociétés. Ils sont alors pas du tout en autonomie, au contraire, ils s'entraident. Alors ça peut être une maison ou dans un village ou dans des villages voisins, donc ils font des cultures, ils sont boulangers, voilà, donc c'est des choses qui sont remarquables, enfin c'est vraiment extraordinaire d'arriver à faire ça, et puis c'est des gens, enfin ils sont heureux, hein, de toute façon ils se sacrifient pas, mais ils vivent avec très peu de choses, donc j'applaudis évidemment sur ce genre de choses, mais en même temps quand on voit des gens comme Elon Musk qui vont, lui ou d'autres, hein, qui vont dépenser des sommes faramineuses pour des projets extrêmement polluants, enfin, qui mènent la Terre à leur perte, c'est un peu compliqué, quoi, effectivement, de ne pas avoir envie de hurler, quoi. Donc, je propose quelque chose, mais c'est tellement petit que je pense que ça paraît, ouais, un peu, presque inutile. Enfin, j'espère que non, mais voilà. Ouais.
Alors, on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un extrait, Michel. Voilà, préparez-vous. C'est parfait. Voilà, en effet, la petite main sous la joue comme un écrivain. C'est très bien. Merci Valérie pour ce moment catchy. Michel, c'est à vous pour un premier extrait.
Alors, donc le premier extrait, c'est quand Anthony va visiter ses parents, donc à la campagne, enfin, dans ce qui reste de la campagne. Alors, je ne sais pas si c'est long, si bon, vous me dites si c'est trop long, je m'arrêterai. La vieille guimbarde est garée au bord du trottoir. Mon père est là au volant, il m'attend fumant. Il fabrique lui-même son tabac, son huile, son essence, entretient et répare depuis des années ce véhicule antédiluvien, qu'il ne sort de la grange que pour venir me chercher. Où veux-tu que j'aille? Répondrait-il en haussant les épaules si je l'interrogeais sur ses déplacements. Tu as vu l'état de la carrosserie et celui du moteur? Il vaut mieux que je ne m'éloigne pas trop, ajouterait-il. Un jour, elle tombera en panne et tu n'auras plus aucun moyen pour évacuer en cas d'urgence. De quelle urgence parles-tu? Je ne bougerai pas, même si une explosion nucléaire rasait le pays. Il faudrait quand même que tu te procures une voiture en meilleur état, cela me rassurerait. Quand elle ne roulera plus, j'essaierai de me construire un cheval. Et si c'est trop difficile, je bricolerai un âne. Il pourra toujours tirer ma vieille charrette. J'aime son humour, cette flamme ironique qui vacille en permanence au fond de son regard. Mais aujourd'hui, j'ai beau chercher, elle a disparu. Il me paraît abattu, plus résigné que d'ordinaire. Il m'interroge. Tout va bien en ville? Les affaires sont-elles florissantes? Quelles affaires? Celles des loups, des hyènes et des seigneurs de la jungle? Les rastignacs ont-ils toujours le dernier mot? Je ne comprends pas, tu parles comme un vieux livre. C'est normal, c'est ce que je suis devenue, un vieux livre dont chaque page se décompose lentement et tombe en poussière. Tu vis au milieu d'eux, c'est vrai, mais tu n'en seras jamais un. Tu resteras composé de chair et de sang, jamais de papier. Dommage, j'aimerais me transformer ainsi. Non, ce n'est pas une bonne idée. Le papier est trop fragile, il brûle ou se déchire. La chair se consume, elle aussi, et elle dégage parfois une fumée plus lourde, âcre et poisseuse. La chair peut-être, mais le sang résiste. Il coule et s'accroche à la moindre des aspérités. Il hausse les épaules. Si tu le dis, admettons-le. Tu veux toujours avoir raison. Le moteur cale et il doit redémarrer. Deux, trois fois, il tourne la clé dans le contact avant de pouvoir repartir, puis s'immobilise de nouveau 50 mètres plus loin, au milieu de la route. Qu'importe, c'est le seul véhicule qui emprunte encore cette ancienne voie de circulation, saturée de nids de poules et de chiens-dents. Je remarque à voix basse. C'est aujourd'hui qu'elle va nous lâcher, une date à remarquer d'une pierre noire. Il hausse les épaules sans s'énerver. Il reste calme, toujours impassible, descend, ouvre le capot, fourrage de longues minutes dans les entrailles du moteur. La mécanique hoquette, puis repart avec un bourdonnement sourd. Il ne faut jamais se décourager, elle a encore de beaux jours devant elle. Je l'observe tandis qu'il se rassoit. À chaque visite, je le retrouve un peu plus vieilli et fatigué. Ses yeux s'enfoncent au creux des orbites et des cernes grises apparaissent. J'aperçois aussi de larges éraflures sous son avant-bras maigre. Que s'est-il passé? Tu es blessé? Il secoue la tête. Je suis tombée en marchant dans les gravats. Quelques marches de l'escalier se sont effondrées. Tu verras, on ne peut plus monter à l'étage désormais. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave. Le rez-de-chaussée nous suffit. C'est largement assez grand pour nous deux. Il faudra bien que vous déménagiez bientôt. Cette maison devient dangereuse, je n'arrête pas de le répéter. Déménager, remplacer la voiture, tu as le goût du changement, décidément. Après tout, c'est normal, tu es si jeune. Ce n'est pas une question d'âge, mais de nécessité et d'urgence. Tu sais bien que nous ne bougerons plus. Ils ne pourront plus nous faire déguerpir. Autant nous distribuer des capsules de cyanure. C'est ce que j'ai toujours réclamé d'ailleurs. Est-ce que tu t'en souviens? Le cyanure de potassium en vente libre dans les épiceries et les stations-service. Ou distribué à l'entrée des écoles et des universités. Pourquoi s'y opposer? Quand une partie toujours croissante de la population devient une charge, un excédent, c'est une mesure de salubrité publique. Ils nous rendent la vie impossible et nous interdisent en retour les moyens les plus efficaces de s'y soustraire.
Merci Michel. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de quand un auteur d'imaginaire écrit, est-ce qu'il croit finalement à tout ce qu'il écrit dans le futur? Est-ce qu'il est véritablement convaincu que cela peut arriver ou pas? Est-ce qu'il y a véritablement une once de vision, entre guillemets, puisque là pour le coup, vous parlez de aussi dans le roman d'évolution vers une certaine autre forme d'humanité. On peut parler de transhumanisme, on peut parler de tant d'autres choses, mais pour le coup, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez cela réalisable ou au contraire, un auteur d'imaginaire peut tout à fait s'octroyer le droit de potentiellement tout inventer ou prévoir?
Ben les deux. Donc on peut tout se permettre, c'est ça l'avantage d'être auteur. Est-ce que j'y crois? Bah, peut-être pas jusqu'au bout, mais dans une certaine mesure, oui. Je reviens toujours à Elon Musk, vous allez me dire. Il a bien implanté dans le cerveau, là, j'ai entendu parler, on peut diriger une souris depuis des électrodes implantées dans le cerveau. Oui, on va être capable de faire ce genre de choses. Alors après, revenir dans le passé, peut-être pas. Mais oui, je pense qu'on peut avoir des choses assez effrayantes de capacités humaines augmentées. Pour des raisons peut-être, ça serait sans doute pas pour les bonnes raisons d'ailleurs, pour des raisons militaires ou autres.
Est-ce que vous voyez notre monde dans 50 ans? C'est une question que je pose de manière récurrente et vous avez écouté la rencontre avec Jean-Luc, donc je la repose bien entendu puisque c'est une question qui intervient à chaque fois. Dans 50 ans, en 2074, comment vous voyez la société dans laquelle nous vivons? Est-ce qu'elle sera celle de simplement immortel ou au contraire plus aseptisée ou beaucoup plus libre? Finalement, puisque ce sont peut-être les deux mots-clés de ce roman, la liberté et le côté aseptisant de nos consciences, comment vous la voyez cette société?
Bah, en fait, je suis en train de l'imaginer puisque donc je parlais de Nous entrerons dans la lumière, qui était un peu le premier roman où je me suis confrontée au futur. Mais c'était un futur assez proche puisque c'était un père et sa fille qui fuyaient la sécheresse que subissait la France et puis des guerres aussi. Et ils traversent la France pour essayer de s'enfuir. Ils se retrouvent bloqués sur une plage dans un port, en fait les bateaux partent plus, et la jeune fille qui a vraiment évolué sous les yeux du père rencontre une bande de jeunes, d'hommes, de femmes, et en fait ils décident de réparer un bateau et de partir. Et donc c'était une fin très ouverte, et donc là j'ai imaginé la suite. Et moi je reste, donc là je suis en train de l'imaginer justement ce futur avec deux livres. Après ces jeunes gens, alors je ne vais pas déflorer des livres qui ne sont pas encore parus et même pas encore tout à fait finis d'écrire, mais j'imagine pas une société aseptisée, comme dans Simplement Immortel pour certains, pour les privilégiés, et puis pour les autres, pas du tout. On va peut-être en faire de la main-d'œuvre, parce que comme on aura moins d'énergie, peut-être qu'on sera obligé d'utiliser plus de main-d'œuvre humaine finalement pour économiser de l'énergie. Et je les imagine parqués avec plus ou moins de liberté, mais dans des endroits pas du tout verdoyants, dans des endroits pas du tout agréables à vivre. Donc ouais, moi, j'imagine vraiment une société séparée en deux.
On a hâte.
Ouais, c'est ça. Bon, après, j'imagine, hein, mais il y a des moyens de s'y opposer, je suis sûre.
Disons que quand on voit les projections des auteurs de science-fiction des années 40, 50, 60, que ce soit Asimov ou Philip K. Dick, on s'inquiète aussi quand aujourd'hui les auteurs parlent et font des récits de science-fiction, puisque souvent ça se réalise. Donc c'est toujours très inquiétant. Sandra, c'est à toi.
Oui, justement par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir recours à la science-fiction, au futur, je me demandais si, aussi bien pour vous, Michel, ou pour toi, David, est-ce que c'est un univers qui permet en fait de s'ouvrir tous les champs des possibles, puisque si on considère le présent et le passé, tout est déjà fait, déterminé, on peut guère revenir dessus, mais finalement, le futur... ouvre toute possibilité dans l'imaginaire, dans les histoires. Est-ce que c'est comme ça que vous considérez aussi ce recours au futur, à la science-fiction?
Oui, après, moi, franchement, j'ai pas de frein. Je peux très bien, dans La nuit, je vole, je peux très bien inventer de voler. Et puis, dans ce livre, quand je racontais quand elle s'envolait, j'y croyais vraiment. Hein, donc, j'ai pas de frein. Après, j'écrirai peut-être pas forcément tout le temps sur la science-fiction. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc, comme je le disais, ça permet d'éclairer notre réalité avec des lumières particulières. Donc, j'aime beaucoup. Il va y avoir, donc, c'est la suite nous entrerons dans la lumière. Après, non, j'écrirai pas forcément tout le temps dans le futur. Mais le futur, effectivement, est très riche. Ça permet une liberté, une inventivité. Puis les lecteurs s'attendent à tout. Les lecteurs sont pas bridés, donc on va pas les choquer. Non, c'est très, très agréable comme univers.
En préambule, je vous parlais de l'enseignement. Il y a des passages plutôt savoureux sur l'enseignement. Je vais en citer un, page 30. Cet enseignant pourrait nous hypnotiser et délivrer son message à distance, directement dans nos cerveaux. L'information s'écoulerait comme un rêve et s'imprimerait sans effort dans nos mémoires. Comme ce serait pratique, facile, vous ne trouvez pas? Nous n'aurions plus à écouter, noter, apprendre, perdre autant de temps à accomplir ces tâches fastidieuses. Alors là, j'imagine que c'est votre casquette d'enseignante qui parle aujourd'hui où certains étudiants ont du mal à se concentrer, ont du mal à apprendre, à lâcher leur téléphone quand ils sont en cours ou autre. Et je vois que vous acquiescez, nous sommes sur la même longueur d'onde puisque j'enseigne aussi. Pour le coup, c'est aussi un roman qui interpelle par rapport à ces questions-là, par rapport à l'intelligence artificielle, où aujourd'hui de nombreux étudiants, et je ne dirais pas la totalité, mais presque, utilisent l'IA pour rédiger, sans passer par la case réflexion, leurs devoirs. Dans la marge de votre livre, j'ai noté j'en rêve, et puis j'ai mis non, et puis j'ai mis oui, et puis j'ai mis non, et en réalité, je ne sais plus. Aujourd'hui, je ne sais plus quelle est la bonne méthode. Est-ce que c'est déjà perdu? Est-ce que le combat est perdu d'avance pour retrouver une certaine concentration, une certaine acuité de nos jeunes? Alors, je ne parle pas évidemment de tous les jeunes, on ne va pas généraliser, mais quand même, il y a une grande partie, que ce soit au collège, au lycée ou même plus tard en études académiques, il y a un véritable problème et personne n'en parle finalement trop. N'en parle finalement trop. L'intelligence artificielle est à peine effleurée du doigt sur ces questions-là. Vous mettez le doigt dessus. Est-ce qu'il y a véritablement aussi un retour d'expérience sur ce genre de choses?
Alors moi j'enseigne donc le génie civil. Alors je vais expliquer rapidement à quoi ça consiste. C'est dimensionner, enfin c'est plutôt des maths et de la physique. Donc l'intelligence artificielle va, bah, on utilise des logiciels, mais depuis longtemps. Donc ils vont pas se servir de ça pour faire des rédactions ou ce genre de choses dont vous parliez. Mais par contre, c'est vrai que c'est la première année où je me trouve confrontée. Donc, j'enseigne à des BTS, hein, donc c'est des jeunes qui ont plus de 18 ans, qui ont eu leur bac. Et c'est la première année où je les trouve insaisissables. En fait, c'est des étudiants qui sont beaucoup plus absentéistes qu'avant. Et bon, le téléphone, ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont, mais pas tant que ça. Bon, ils sont travailleurs, mais ouais, on a l'impression que c'est des savonnettes. Ils viennent pas toujours en cours. Ils vont abandonner très rapidement, très facilement. Et donc, après, bah, ça fait des classes qui sont là, qui sont pas là, donc ils viennent pas. Et après, ils récupèrent pas forcément. Enfin, oui, je suis assez. C'est comment dire, c'est pas découragé, mais j'ai du mal à trouver le terme. Je n'arrive pas à les comprendre, en fait. Ils sont intéressés par ce qu'ils font, mais bon, s'ils ont autre chose de mieux à faire, ils ne viendront pas pendant 15 jours. Voilà, donc c'est la première année et je ne suis pas la seule, en fait. On est tous nos collègues un peu à faire ce constat. Donc on se dit, pardon, excuse-moi, on se dit peut-être pour se rassurer que c'est le Covid, qu'ils ont eu un petit peu des cours en pointillés comme ça, mais finalement ils n'étaient pas très présents, alors présents physiquement et présents dans l'esprit. Mais je pense que c'est une génération qui n'est pas très impliquée dans cette réalité, quoi. Peut-être qu'ils ont l'habitude de trop vivre justement dans le virtuel. Je ne sais pas, mais c'est un peu décourageant et on ne sait pas comment réagir en tant que prof, quoi. Et même en tant que parent.
Oui, c'est aussi en tant que parent. Je ne sais pas si David veut intervenir là-dessus, parce que je sais que toi aussi, tu as sûrement un avis sur la question.
Ben, c'est vrai que moi, je suis un ancien enseignant, je n'ai plus cette charge, mais dans le catalogue des forges, la question de l'enseignement, ça revient souvent. On n'a pas encore notre grand texte sur l'enseignement, mais beaucoup d'auteurs des forges l'ont évoqué. Je pense tout simplement parce que les forges ne sont pas fondamentalement différentes du reste de l'édition sur ce point, c'est qu'on a une proportion importante d'enseignants parmi les écrivains des forges. Et comme il faut écrire sur ce qu'on a en propre ou s'en inspirer, on a des propos sur l'école qui reviennent régulièrement. Mais je pense à un point, c'est que, Anthony, t'as parlé à intelligence artificielle, qui est moi un sujet qui me passionne, mais tu vois comme... Michel revient sur des questions qui sont presque des questions psychologiques ou anthropologiques, et je pense que c'est très révélateur de son appro la manière dont elle approche la science-fiction, qui est une approche où certes il y a dans science-fiction il y a science, donc il y a une dimension technologique de réflexion technologique, mais finalement c'est les aspects moraux, politiques, psychologiques qui vont prendre le devant. Et pour répondre à la question qu'avait Sandra tout à l'heure, et il y a un lien, c'est que la je ne dirais pas la science-fiction, mais les récits d'imagination. Parce que finalement, La nuit, je vole, un des précédents romans de Michel, c'est un roman qui n'est pas un roman de science-fiction, mais comme il y a un événement un peu de réalisme magique, donc c'est-à-dire un événement extraordinaire, une femme qui se met à voler, et qui a les conséquences réalistes de ces textes, je dirais qu'il y a la différence, il faut distinguer plus une littérature qui serait très réaliste et une littérature d'imagination qui serait plus vaste. Et ce que permet la différence, c'est que je pense que souvent la littérature, quand elle est très réaliste, elle nous décrit le réel et c'est une littérature de consolation. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour accepter le réel? Et les littératures d'imagination, c'est souvent des littératures du possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait possible et parfois, les littératures d'imagination, dont la science-fiction, c'est des littératures assez exaltantes parce que nous disent, ah oui, le monde pourrait être différent, on pourrait s'impliquer, faire un monde un peu différent. Avec cette réserve que dans les romans de Michel, mais ça, elle l'a très bien dit, c'est que c'est plutôt des romans de la fuite. C'est-à-dire qu'il y a un motif, le jour où on fera des thèses sur l'œuvre de Michel, dans presque tous ces romans, il y a des moments où il y a une sorte d'ouverture ou de brèche. Par exemple, dans La nuit, je vole, je me souviens qu'il y a tout un passage très étrange où un couple rénove un appartement et il y a une brèche dans le plancher et ils se mettent à observer, imaginer la vie des autres. Il y a un peu ça dans Chevrolet Impala avec aussi des ruelles sombres avec par moments des moments de lumière et la manière dont Chevrolet Impala est construit, à un moment on se retrouve reprojeté dans les années 60 et donc c'est juste le souvenir qui s'ouvre et après ça se referme. Donc il y a bien un côté littérature du possible chez Michel, mais c'est souvent effectivement une sorte de petite ouverture, une brèche par laquelle on doit passer, mais après ça se referme. Donc ça reste des romans qui, même dans la science-fiction, sont assez réalistes et ça rejoint ce que tu suggérais, c'est-à-dire c'est des romans où il va y avoir du transhumanisme, de la transformation, voilà, mais finalement, on revient vers nos propres limitations qui sont psychologiques, qui sont morales, qui sont émotionnelles, qui sont par exemple, la solitude, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un grand thème de la littérature en général. Je précise que j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui trouvait que la littérature de consolation, c'est une jolie expression. Je tiens à dire que justement, l'esthétique des forges, c'est de refuser la littérature de consolation, qu'il ne faut jamais, face au réel, travailler à accepter le réel, il faut plutôt travailler à changer le réel. Mais il ne faut pas s'illusionner sur la capacité à changer le réel non plus. Voilà.
Alors ça tombe bien puisque page 199, j'ai noté que Michel, vous avez peut-être des dons de voyance. J'espère que vous ne serez pas condamné comme Red Bull qui a été condamné à 13 millions de dollars récemment parce qu'il disait dans son slogan que cela donnait des ailes. Vous donnez une acuité particulière au cerveau. Et je vais vous citer, le seul véritable alchimiste, c'est notre cerveau. Son pouvoir de persuasion dope nos performances. Tout puissant, il domine notre conscience. Parfaitement entraîné, il peut nous permettre de léviter, de transmettre nos messages par télépathie, de reconstituer un membre blessé, de devenir quasiment invincible et même invisible. Est-ce que vous avez peur de la d'un tribunal français ou pas, Michel?
Non, 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 ça... non, j'avoue, là, je suis d'accord avec moi-même. Non.
Non. Ok. C'était pour la petite blague. Un épigraphe, pardon, j'aime toujours regarder les épigraphes des auteurs. Pour le coup, c'est Dominique Annet qui parle de l'immortalité. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette citation que je vais citer là aussi? Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même, on y serait?
Bah oui, c'est pareil, c'est enfin, je trouve je sais pas bon, je me souviens plus de la suite de la chanson. C'est une très belle déclaration d'amour. Voilà, donc alors après c'est très cucul après il a ce que je vais dire, mais quand on est amoureux, on est toujours un peu immortel. Non, non, mais oui, c'est une belle phrase, je trouve belle, et puis elle allait dans l'histoire d'amour en fait, c'est tout. Et puis dans le fait qu'ils soient jamais ensemble, quoi, qu'ils passent le roman à se chercher l'un l'autre, quoi. Elle éclairait bien le roman.
Clairement. Et justement, sur cette relation de couple, pour, entre guillemets, le sauver, ce couple, finalement, les deux doivent s'extraire de la norme et des injonctions, finalement. Est-ce que c'est aussi un message qu'on enverrait en disant, voilà, libérez-vous de ces injonctions-là pour sauver un couple, pour en tout cas trouver des solutions, pour essayer d'avancer? Est-ce qu'il faut se libérer de toutes ces injonctions sociales, que ce soit la grossesse, le mariage et tant d'autres choses, finalement, puisqu'il est aussi question de grossesse dans ce roman, et de manière admirable aussi. Est-ce que c'est un message que vous vouliez peut-être envoyer par rapport à cette thématique-là?
Non, moi je ne cherche pas à envoyer des messages. Après, on peut très bien être heureux et puis se confronter à la norme, je suppose. Et puis de toute façon, on est bien obligé de faire des compromis. Mais moi, là, ils sont soumis. Parce que là, c'est pareil, c'est l'avantage de la science-fiction. On peut tellement exagérer les choses qu'à un moment donné, c'est plus viable, ils ne peuvent plus le supporter. Nous, dans notre vie quotidienne, comme ces injonctions, bah, elles restent quand même, on garde un certain levier de souplesse, une certaine douceur. Donc, en fait, on ne les sent pas toujours, donc on les accepte. Mais ce roman, c'est justement de montrer que à un certain niveau, ça devient insupportable, quoi.
Et j'aimerais revenir également sur une phrase qui est plutôt extrêmement choc dans votre livre, puisque vous écrivez, quand une partie toujours croissante de la population devient une charge, un excédent, c'est une mesure de salubrité publique, entre guillemets, alors je précise, de l'éliminer, de l'éradiquer, puisque vous parlez de cyanure juste avant. C'est une phrase extrêmement forte aussi qui en dit long sur nos sociétés actuelles. À partir du moment où une société devient un petit peu fébrile, l'idée est plutôt de l'éradiquer.
De toute façon, c'est un petit peu ce qui se passe. Actuellement, enfin, on voit qu'avec la montée des mers, il va y avoir des zones qui vont devenir inhabitables. Qu'est-ce qu'on va faire des gens alors, bon, je pense aux îles du Pacifique, mais il ne va pas y avoir que ça. À un moment donné, on les laisse se débrouiller. Enfin, bon, y a quand même des famines. Enfin, c'est ce qui se passe actuellement, sans pilule de cyanure. Je pense que. Ouais, une part de nos dirigeants l'ont accepté. Enfin, ouais, moi, ça existe déjà. Donc, ouais. Mais ces pilules de cyanure, moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours pensé parce que même je suis contre la souffrance inutile. Donc, ouais, je pense qu'on devrait permettre plus facilement, quand on est très âgé, quand on est très malade, de pouvoir se délivrer et de pouvoir. Finir sereinement. C'est quelque chose auquel je suis très très attachée. Bon, après, pas du cyanure. Alors, j'ai mis du cyanure parce que c'était des rappels. C'était les nazis, je pense qu'ils s'étaient suicidés de cette façon après la guerre, hein. Bon, je pense qu'on peut trouver quand même avec cette société tellement évoluée, tellement inventive, des solutions beaucoup plus élégantes et poétiques. Mais ouais, c'est quelque chose auquel je tiens bien.
Alors, j'aimerais que vous nous parliez également de non seulement du titre, mais aussi de la couverture, parce que il y a cet individu qui est démasqué, c'est le seul de la couverture. Comment vous avez choisi cette couverture et ce titre-là? Est-ce que David est intervenu? Est-ce que c'était le titre initial? Et aussi donc nous expliquer nous expliquer tout simplement la couverture. Est-ce qu'il y a un message particulier derrière cet homme? On a l'impression que c'est un homme. Je ne sais pas. Vous allez peut-être nous dire avec deux yeux de couleurs différentes d'ailleurs. Là aussi, le moindre détail est important chez les forges. Parlez-nous de ces deux éléments.
Alors, le titre, c'est moi, et ouais, c'est important, le titre d'un roman. J'ai eu du mal à trouver ce titre-là. Je me souviens très très bien du moment où je l'ai trouvé. Je suis en train de me promener dans la campagne. C'était une belle après-midi d'été. Et voilà, ça m'est venu d'un coup. Et c'était parfait. Et j'ai jamais voulu le changer. Et voilà, donc j'aime beaucoup le titre. Il y a eu certains romans où on a été obligé de changer les titres. C'est toujours compliqué de changer un titre. Alors la couverture, pour le coup, c'est pas moi. La première fois que j'ai vu la couverture, j'avoue que j'étais très surprise. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Maintenant je l'adore, hein. Il n'y a pas de problème. Mais non, non, j'étais très surprise et je vais peut-être laisser David en parler parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi, la
Et c'est
couverture.
évidemment, une fois de plus, Elena Vieillard qui fait un travail à chaque fois dingue sur les couvertures.
Ouais. Alors, sur le titre, alors, comme tu l'as dit, Anthony, ce n'est pas la première fois que je participe à Avril, donc il est possible que je me répète, mais peut-être que parmi vous, il y a aussi des gens qui m'ont jamais entendu dire ça, c'est qu'effectivement, dans l'édition, le titre, c'est la responsabilité de l'éditrice ou l'éditeur, ce n'est pas la responsabilité de l'auteur. Sauf que, bien sûr, par correction, on ne va pas demander à un auteur ou une autrice de défendre un titre, un roman dont il n'est pas fier du titre. Il arrive très souvent en Forge que le titre de travail et le titre publié soient différents pour toutes sortes de raisons, parce que il y a des titres de work in progress qui sont très bons pour travailler, mais qui en fait ne seront pas des bons titres commercialement. Ou, voilà. Simplement Immortel, j'ai toujours trouvé que c'était un très très bon titre parce que je pense que le terme fait signe vers les deux éléments importants du récit qui sont pour moi l'immortalité qui est un presque un concept de science-fiction qu'un concept métaphysique. Et comme l'a dit tout à l'heure Michel, l'immortalité, c'est aussi quelque chose qu'on touche par le sentiment amoureux, avec le sentiment d'immédiateté et d'immortalité qu'il y a dans l'immédiat amoureux. Donc je trouvais que c'était le titre parfait. J'aime bien l'élégance de dire simplement immortel, parce que justement, c'est presque une dichotomie, voilà, d'accoler deux termes qui ne. L'immortalité, c'est à la fois simple et pas simple du tout, en fait. Voilà.
C'est
Donc, je
presque un
trouvais que le titre
oxymore.
était parfait. Presque un oxymore, c'était le mot que je cherchais, merci. Là, je sens que je fatigue un peu parfois, mais voilà. Sur la couverture, il faut voir que Elena Vieillard, qui fait donc toutes nos couvertures, elle n'a souvent pas accès aux textes ou le temps de les lire avant publication. Donc, ce qui est petite anecdote, c'est que souvent je reçois un message d'Elena 2 ans après la sortie d'un livre en disant j'ai enfin eu le temps de le lire, c'est quand même très très bien. Hein. Voilà. Donc, mais ça, ces avis arrivent souvent des années après. Voilà, parce que ça doit être une des rares personnes à avoir la totalité du catalogue des Forges avec moi. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a envoyé un résumé un peu développé. Et surtout, elle nous dit à quoi ça vous fait penser comme récit. Et en fait, ce que j'essaie de lui dire, c'est que moi, le côté société militariste, c'est un truc très distinct parce que même si la dystopie est un genre très littéraire très développé, notamment en science-fiction, la science-fiction avec une dimension militariste, c'est finalement devenu assez rare. Donc, je trouvais que c'était quelque chose qu'il fa fallait faire. L'autre élément aussi, c'est que, je lui disais, c'est la distinction, c'est une histoire d'amour entre deux personnages et qui sont dans cette. Donc, avec cette idée qu'ils vont devoir s'affranchir de quelque chose. Donc, là, l'affranchissement, il est figuré par le fait que, y a une des personnes qui ne porte pas son masque en entier. Et donc, c'est elle qui a inventé ces casques à l'infini, parce que dans les sociétés du futur, qui sont des sociétés uniformes, tout le monde se ressemble, tout le monde a le même masque. Et c'est des masques qui sont un tout petit peu Star Wars, c'est un petit peu tête de mort, pour donner un côté lugubre. Par contre, il y a eu plusieurs essais de couverture, et il y a quelque chose que j'ai rajouté. Où c'est moi qui lui ai fait une remarque pour changer, c'est que les couleurs initiales étaient complètement différentes. C'était un aplat très sombre et unique. Et c'est peut-être la seule chose qui a reposé sur moi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très élégant dans la science-fiction de Michel, dans l'univers de Michel. Et moi, ça a fait beaucoup penser à quelque chose musicalement qu'on appelle la synthwave. C'est un type de musique très inspiré de la musique des années 80, très synth. Enfin, c'est des synthés, et voilà. Et en fait, la synthwave, c'est aussi un genre visuel, en fait, avec un petit peu de néon, un petit peu de. Voilà, et je lui ai dit, au lieu de nous faire un aplat noir sur le fond, un fond noir avec ces casques blancs comme ça, fais-nous quelque chose, une gamme de couleurs un peu étrange. Et elle nous a fait une gamme de couleurs synthwave. Alors, les yeux des casques, c'est presque le coucher de l'horizon kitsch qu'il y a dans les textes, enfin dans l'univers synthwave. Et voilà. Quant aux deux yeux de couleurs différentes, c'est une invention d'Elena. C'est vraiment quelque chose qui lui est venu comme ça. Et je me suis dit, je sais pas, ça, c'est aussi une manière de dire, c'est une originalité du personnage. Ça évoque David Bowie aussi. Enfin bon, voilà, les couvertures, c'est un peu des tests projectifs. On peut y voir plein de choses différentes selon nos cultures variées. Voilà.
Et Daft Punk, évidemment.
Oui, Daft Punk aussi. Oui, c'est vrai que les casques font un peu Daft Punk. Enfin, un des deux Daft Punk, oui.
Isabelle, c'est à toi.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Michel, bonsoir David. Alors moi, je n'ai pas encore lu votre roman, mais c'est vrai que je reviens sur la couverture. Par contre, quand je l'ai vue, alors évidemment, la référence à Star Wars m'a frappée tout de suite, mais surtout, ce qui m'a frappée sur le personnage qui n'est pas masqué, c'est qu'il est rouge et moi je me suis dit il a l'air en colère ce personnage, donc je ne sais pas s'il y a un lien ou aucun, c'est le hasard, enfin ça n'a pas de lien avec le, mais du coup je me suis dit ça me donnait cette impression de rébellion aussi peut-être du coup, et de enfin on sent qu'il y a une forme de résistance peut-être. Du coup, je me demandais s'il y avait un lien, mais peut-être pas du tout.
Bah, de toute façon, nous, c'est là où. Et Elena, en fait, elle ne travaille pas avec d'autres maisons d'édition. Elle a déjà. Comme ses couvertures, il y a quelques années, ont commencé à être bien connues, elle a eu des ébauches comment dire, de collaboration avec des maisons d'édition. Et je me souviens d'une expérience qui était pourtant avec une éditrice avec qui je m'entends très bien, mais qui est plus classique que moi dans son approche. L'éditrice lui a dit: Ah, Elena, j'adore ce que vous faites, il faut que vous veniez, que vous changez complètement nos couvertures. Et donc, elles ont commencé à travailler ensemble. Et elle a dit: Alors, il faut changer complètement les couvertures, mais faut garder l'idée qu'il y a un liseré blanc, que la police de caractère, c'est celle-là, qu'il y a un marquage à chaud et que c'est une photo retravaillée. Et là, Elena lui a dit, mais je ne vois pas ce que je vais faire en fait. Si... Et le problème, c'est que les éditeurs et éditrices, souvent, ont une très mauvaise culture visuelle. Et ça ne les empêche pas de mettre la bride de manière très serrée sur le dos des graphistes en disant, alors je veux tel objet, puis tel objet, puis tel objet. Et ils rentrent beaucoup dans le détail. Et parfois, on a aussi des auteurs qui aimeraient rentrer dans le détail en disant, je voudrais que tel objet soit sur la couverture, et tel objet, et tel objet, et tel objet. Et voilà, alors que... En fait, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Les meilleures couvertures d'Elena, c'est les couvertures où on l'a complètement laissé faire, enfin, en lui donnant quelques éléments, mais pas des éléments concrets. C'est-à-dire, par exemple, dans la présentation que je lui ai faite, je ne lui ai pas dit je veux un casque, je veux des choses comme ça. Et quand je lui ai dit j'aimerais bien une gamme de couleurs Synthwave, c'est dans un deuxième temps, de manière à affiner sa proposition. Donc voilà, mais tout ça pour dire que par exemple, Elena, elle ne travaille pas avec d'autres maisons d'édition parce que je pense que c'est dur quand on est graphiste, parfois de travailler avec des éditeurs et des éditrices. Et que les quelques fois où je me suis laissé aller à faire plein de remarques, c'est les fois où on n'est pas passé loin de casser la couverture, c'est-à-dire où il y avait une belle mécanique qui était mise en place par Elena et en voulant la triturer, on l'a un peu massacrée, quoi.
Eh bien, Michel, vous avez maintenant adoré la couverture, ça y est.
Ah oui, franchement, j'adore, c'est celle que je préfère de tous mes bouquins. Enfin, j'aime bien les autres, mais oui, mais c'est vrai qu'au début, j'étais très surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus paysager. Mais bon, c'est ça qui est bien, justement, d'intervenir à plusieurs sur un livre. Et puis, voilà, d'avoir une illustratrice qui a cette force, ouais, je trouve très, très, très chouette, très, très puissante.
Je reviens sur un passage aussi qui m'a marqué. J'ai l'impression que beaucoup de passages m'ont marqué. Alors celui-ci, il est page 72. Il est sur nos sociétés, encore une fois, qui sont un petit peu tout blanc ou tout noir. Et je vous cite, le scepticisme suffit pour devenir coupable. Et les principes auxquels nous devons adhérer changent radicalement en si peu de temps. Pour la même parole, à quelques mois d'écart, vous pouvez obtenir une promotion ou finir en prison. C'est toujours tout blanc ou tout noir. C'est fort, ça aussi. C'est tellement symptomatique de nos sociétés où justement la versatilité de nos avis, de nos gouvernements, de la prise de parole en public, de finalement nos sociétés, de notre rôle de citoyen, on a l'impression que tout est très mouvant. C'est quelque chose qui est très important dans le livre puisque on voit aussi ce côté extrêmement étiré des choses, des faits. Qui d'un côté peuvent être plutôt positifs et d'un autre côté extrêmement négatifs, sans jamais devenir manichéens. J'ai trouvé que ces phrases-là, une fois de plus, éclairaient beaucoup cette métaphore sur la société.
Oui, ben, là, toujours pareil, je reviens à ce que je disais de ma biographie. Alors, on vit, ben oui, quand on travaille dans des sociétés privées, il suffit qu'il y ait un changement de capitaine pour que ben, ce soit ça. Et puis, ben, on le voit dans le gouvernement. Enfin, je sais pas, il y a des ministres qui vont pour dire des choses il y a 5 ou 6 ans. Puis là, ils sont dans le gouvernement, ils vont dire tout l'inverse et repartir. Moi, c'est fascinant. Moi, j'arrive pas à faire ça. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'éducation nationale. Alors, dans l'éducation nationale, c'est pas que on a aussi un jour c'est quelque chose, un jour c'est autre chose. Mais on nous laisse tellement tranquille, entre guillemets, on est tellement peu surveillé, tellement peu encadré, bon, bah, qu'on peut faire sa vie et puis rester quand même un peu fidèle à ses convictions, quoi. Bon, voilà.
Vous avez demandé, Michel, de choisir un ou plusieurs livres méconnus qui vous animent en tant que lectrice ou en tant qu'autrice. Lesquels avez-vous choisi?
Alors, c'est peut-être pas des livres si méconnus que ça, mais je vais quand même en parler parce qu'ils ont beaucoup d'importance pour moi. Alors, c'est Yoko Ogawa, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez connu, je sais pas si. Et c'est un de ses premiers li livres, je pense, je sais pas si. Ah non, c'est pas son. Enfin, c'est dans ses premiers romans. Et donc, je vais citer La piscine. Alors, je le montre, là, voilà, comme ça. Alors, pour moi, c'est un livre qui est très important parce que, donc, comme je disais, à l'âge de 12-13 ans, je me suis fait la promesse d'écrire. Par contre, contrairement à Jean-Luc, qui parlait dimanche, j'écrivais pas à cette époque-là, mais je me suis rendu compte par la suite que je dessinais, en fait. J'étais plutôt dans le dessin. Après, j'ai fait mes études donc supérieures et je savais qu'il fallait que je me mette à écrire parce que il fallait que je sois fidèle à ma promesse. Mais tant que je faisais des études, j'avais un projet personnel qui était de réussir ces études et d'obtenir mon diplôme pour travailler, avoir mon indépendance financière. Et donc, à la fin de mes études, je me suis forcée, c'est quasiment ça, à écrire. Et donc, pendant 10-15 ans, j'ai écrit des choses qui ne. Je savais que ce n'était pas très bon. Alors, j'écrivais un roman, j'en faisais un autre après, ben, jugeais que celui d'avant, c'était vraiment pas bien du tout. Donc, je me dis, il y a quand même une petite évolution. Mais c'était compliqué. Et j'ai découvert Yoko Ogawa à ce moment-là, et ça a été vraiment une déflagration. Son écriture est très simple, donc elle utilise le présent, elle parle avec le jeu, elle est très dans l'intime, elle a des personnages aussi qui sont déplaisants, enfin, c'est faux. Et elle va décortiquer l'intime. Et en plus, elle a une écriture qui est extrêmement poétique, qu'on peut se plaire à lire comme ça à haute voix des extraits. Donc, je conseille son premier livre. Après, j'en ai lu d'autres. Au bout d'un moment, j'ai moins aimé. Quand elle a fait des livres très longs, j'ai un petit peu abandonné. Je sais que j'avais lu L'Hôtel Iris, j'avais lu aussi un livre de nouvelles qu'elle a fait, qui était aussi très intéressant, puis qui était un petit peu dans l'aspect magique. Puis c'était des nouvelles qui se répondaient. Alors, j'ai plus le nom du livre. Mais voilà, donc Yoko Ogawa, La piscine. Donc, c'est l'histoire d'une adolescente qui vit. Donc, ses parents s'occupent d'une maison pour orphelins. Et donc, elle développe une certaine fascination pour des jeunes hommes de la maison. Et puis, une sorte de jalousie pour les autres. Donc, elle va faire une petite vengeance, mais une petite vengeance à sa façon. C'est un petit peu méchant, mais pas trop. Enfin, bon, moi, ça m'a permis de repartir à zéro dans l'écriture. Donc, je me suis remis à écrire. Donc, c'était il y a longtemps, hein, il y a peut-être 25 ans. Donc, je me suis mis à écrire des nouvelles, puis des textes de plus en plus longs. Et voilà, jusqu'au premier texte que j'ai publié. Et il y avait aussi la grossesse. Donc, c'est pareil. C'est toujours dans la même gamme. Donc, c'est la sœur. Enfin, donc, c'est deux sœurs. Il y en a une qui tombe enceinte. Et puis, l'autre, elle observe la grossesse de sa sœur d'une façon très froide. Et à un moment donné, elle apprend que dans les pamplemousses, ils sont traités avec un produit chimique qui peut donc être mauvais pour le développement de l'enfant. Et elle se met à préparer des confitures de pamplemousse pour sa sœur. Donc, c'est bizarre, hein. Mais voilà, bon, ces livres sont pour moi très très importants parce qu'ils m'ont permis de redémarrer dans l'écriture. Et puis je voulais citer un livre qui est peut-être un petit peu de l'anticipation. Alors c'est pareil, hein, c'est assez connu. Hein, bon, c'est Dans la forêt de Jean England. Donc c'est un livre, c'est donc là c'est pareil, on est assez dans l'intime, c'est deux sœurs qui sont confrontées à la fin de la civilisation et qui s'enfoncent dans la forêt. Alors je l'ai lu il y a quelques temps et je me souviens plus tout à fait de la fin, mais c'est très intime, c'est très lié à la nature, c'est vraiment une aventure, enfin c'est un très très beau livre. Voilà, donc ce que je peux citer.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et la poésie dont vous parliez, vous, il y a quand même quelques passages poétiques dans votre roman. À travers ces sociétés extrêmement sombres, il y a quand même des très belles déclarations d'amour, notamment celle d'Anthony qui, je vous cite, j'ai besoin d'elle pourtant, de sa présence réelle, effective à mes côtés. Je ne pourrais pas me contenter indéfiniment de ces signes intangibles qu'elle disperse au petit bonheur dans l'appartement. Irrégulier, imprévisible, personne d'autre que moi ne peut les remarquer. Il y a aussi ce genre de phrases extrêmement touchantes, parfois romantiques, parfois poétiques. C'est aussi quelque chose qui, voilà, je voudrais juste qu'on compense le côté extrêmement noir du roman aussi. Il y a quelques phrases d'espoir. Alors pas, je ne dirais pas comme la dernière table ronde à laquelle vous avez assisté. Évidemment, l'espoir n'est pas aussi grand, mais quand même, il y a des petites touches aussi. J'aimerais, je voulais juste quand même le préciser. Et j'aimerais maintenant que vous nous parliez pour finir cette rencontre, Michel, de ce prochain roman qui est donc une suite de ce que j'ai cru comprendre, qui est déjà écrit, en cours d'écriture. Comment où vous en êtes concrètement?
C'est en cours d'écriture, donc enfin bon, David le sait, j'ai déjà envoyé des passages, mais bon, c'est pareil. Je suis en train de l'écrire. Alors, bah, c'est compliqué de parler d'un roman qui n'est pas encore sorti. C'est ces jeunes gens là qui vont prendre un bateau et puis qui vont se retrouver sur une île. Et là, je me suis inspirée. C'est un petit peu comme Robinson Crusoe. Voilà. Donc, mais dans le futur, quoi. Et ben, ils vont être confrontés. Donc, ils vont arriver à faire leur petite société. Ça va être bien. Et puis, à un moment donné, ben, il va y avoir des choses qui vont venir de l'extérieur. En particulier, cette mer qui est de plus en plus polluée, qui est de plus en plus recouverte par des déchets plastiques. Et voilà la thématique du prochain roman. Et oui, je m'étais beaucoup inspirée aussi de ce livre, L'homme aux yeux à facettes. Je sais pas. Donc, je conseille aussi sa lecture. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un roman, c'est taïwanais, il me semble. Et donc, c'est pareil. C'est avec les déchets plastiques. C'est des gens qui arrivent à survivre sur les déchets plastiques. Et c'est la lecture de ce roman. Moi, c'est toujours en fait une lecture ou un film qui va me donner envie d'écrire. À partir de ça, alors évidemment, sans plagier, mais ça m'ouvre un nouvel univers, ça me donne de l'imagination.
C'est surprenant que vous ayez choisi uniquement, donc, alors pas excepté Jean England, mais uniquement de la littérature asiatique. Vous vous sentez, j'imagine, proche d'elle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie? Est-ce que c'est un pur hasard? Au contraire, il y a quand même un véritable faisceau là, faisceau d'indices.
Non, je pense que c'est un hasard. Alors moi, je sais pas, je vais beaucoup dans les bibliothèques. Et dans la bibliothèque où j'allais à l'époque, eh ben, il y avait un gros rayon littérature asiatique. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est ce qui m'a permis de découvrir. Bah, depuis mon enfance, hein, les bibliothèques, les médiathèques sont très, très importantes. Et bon, après, c'est vrai qu'on est soumis au choix de la personne responsable. Donc je pense que c'est simplement qu'à cette époque-là, la bibliothèque de Saint-Brieuc, il y avait un très bon rayon asiatique. Voilà.
Parfait, parfait. La Bretagne et l'Asie, voilà, les points communs se créent.
Voilà.
Merci infiniment à tous les deux. Oui, David, pardon.
Non, je pense à une toute petite chose. Anthony, tes émissions, c'est pendant les confinements que ça a commencé, c'est ça?
Tout à fait, tout à
Et
fait.
je sais pas. Côté Forge, pendant les confinements, on a commencé notre podcast. Donc, on a un podcast très irrégulier, irrégulier où parfois il y a 4 épisodes dans une journée et parfois il y a 4 mois sans épisode. Donc, nous n'avons pas ton sérieux. Mais en fait, quand on a commencé, on a fait le tour de tous les auteurs des Forges. Chacun a une petite émission et on leur a demandé, enfin, je leur ai demandé ce qu'ils lisaient. Et c'est vrai que ça avait été à ce moment-là un étonnement, c'est-à-dire que Michel, en fait, avait détaillé une grande partie de sa bibliothèque japonaise. Alors après, éditorialement, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on sait ce qu'un auteur aime lire, on finit par mieux comprendre comment il écrit, ce qu'il veut faire, et ceci, ce qu'il comprend d'un auteur. Parce que souvent, on peut aimer le même auteur, mais en retenir des choses très, très différentes, voire diamétralement opposées. Et voilà, il faut toujours garder à l'esprit que tous les auteurs sont des lecteurs avant tout et commencent par la lecture et tout finit par la lecture.
Exactement, merci David. Et en effet, derrière vous, Michel, ce ne sont pas des romans asiatiques, mais des dossiers administratifs. C'est la première fois qu'on reçoit un auteur qui a autant de... Vous n'êtes pas phobique administrative, ça c'est sûr.
Non, c'est des cours, en fait, il y a des photocopies. Ah ben, je me suis mis. Alors, en fait, c'est le match Rennes-Milan aujourd'hui, en ce moment même. Donc, le séjour est condamné. Il y a mon fils qui est dans le séjour. Et c'est bien parce qu'on n'a pas trop entendu de hurlements. Et donc, je me suis confinée dans. C'est pas mon bureau, c'est plus le bureau de mon conjoint que le mien. Voilà,
Et en
mais je
effet,
suis tranquille.
personne n'a hurlé alors qu'il y a déjà eu 5 buts et
Ah,
ça,
d'accord.
c'est un exploit. Merci infiniment à tous les deux, merci à tous et on se retrouve pour un prochain auteur des Forges, pourquoi pas dans les semaines ou les mois à venir. Merci à tous, merci pour votre gentillesse et votre confiance. Au revoir
Merci.
tout le monde. Merci
Merci
Michel et
beaucoup. Au
David.
revoir.
Au revoir à tous.